Alors, je me suis mis là comme ça. Tout le monde peut bien regarder la crèche et prier en même temps. Alors, Noël, c'est l'événement qui bouleverse le monde. C'est tout simple, hein, nous sommes en 2013. Donc ça veut dire qu'un homme a réussi à faire basculer le temps, à dire « il y a un temps avant moi ». Et il y a un temps après moi, 2013. Et voyez, dans le début de l'évangile, on nous donne des références très précises. On nous dit « parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, lorsque Quirinus était gouverneur ». Voilà, c'est tous les grands gouvernants, voilà, les hommes d'Israël qui sont convoqués, les empereurs, et qui, à côté de ces grands hommes, en fait, sont contemporains d'un événement très pauvre, la naissance d'un enfant. C'est l'humanité qui est là, qui va être recensée, chacun va aller à sa ville d'origine, et puis il y a Jésus qui va lui aussi être recensé. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé le recensement, parce que quand vous êtes Jésus, vous êtes vrai Dieu et vous êtes vrai homme. Donc vous arrivez... Puis vous dites, ben voilà, enfin, il a rien dit, parce que c'est ses parents qui ont dit, mais Jésus, il avait le corps de Marie, et en même temps, il est vraiment Dieu. Donc, vous voyez, Joseph est le père adoptif. Sa demeure, c'est une grotte, mais sa demeure éternelle, c'est le ciel, c'est le sein du Père. Bon. Où habites-tu, Jésus? En tout cas, je suis au milieu de vous. Je suis celui qui a créé l'univers et vous êtes en ce moment à côté de moi et je suis dans cette grotte qui me contient alors que j'ai créé le monde. Alors Jésus est dans cette grotte. Pourquoi dans une grotte? Parce que il n'y avait pas de place à la salle commune. On nous dit ceci. Hein? En fait, comme Joseph venait dans sa ville d'origine, il connaissait les gens. Okay. C'est pas tellement qu'il a été rejeté du lieu où il voulait aller, etc. C'est que c'était pas tellement digne. Hein? C'est sa ville d'origine, donc il connaît du monde, mais c'est un enfantement particulier quand même que cette naissance. Et donc, voilà, c'était pas digne. On n'a pas trouvé de place. C'était pas digne pour cet enfant. Et donc, ils vont choisir cette grotte. Bethléem. Alors, c'est là où il faut quand même juste réaliser, en fait, le jour de Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui se fait chair. Je sais pas, moi, j'arrive pas à m'habituer à ça. C'est Dieu, c'est celui qui m'a créé, qui, à un moment donné, a pris une chair. Aucune religion n'avait imaginé ça. On a toujours imaginé soit un Dieu très lointain, soit un Dieu alors partout présent, mais tellement présent qu'on ne sait pas où il est. Il est dans les arbres, il est dans la nature. Mais un Dieu vraiment qui est là, qui est mon frère, qui mange à ma table, qui est né dans le corps d'une femme, qui a vécu 9 mois, qui a vécu tout ce qu'on a vécu, qui a une entreprise, qui s'est occupé de charpente, qui a cherché à parler, qui a appris à parler, qui a appris à prier. C'est fou, Dieu a appris, il y a une croissance en Dieu. Mais Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils. Et ça, c'est fou. Personne, j'ai envie de dire, n'aurait pu inventer ça. Ce que disait le curé d'Ars, c'est tellement grand que personne pouvait imaginer qu'un Dieu se fasse un jour homme. Et alors, pourquoi il se fait homme? Eh bien, les anges le disent. Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Voilà. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Donc ça veut dire, et alors la première lecture dit la même chose, hein, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le psaume dit la même chose. Chantez au Seigneur un chant nouveau, de jour en jour proclamez son salut. Vous êtes perdus, il y a un sauveur qui arrive. Et qu'est-ce que dit saint Paul? La grâce s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Donc, on est en train de nous dire, il y a un sauveur qui vient, il y a un sauveur qui vient, il y a un sauveur qui vient. Mais Mais alors, si un sauveur, c'est que moi, il faut que je sois perdu. Le problème, il est là. Si un sauveur, c'est qu'on est perdu. Sinon, il n'y a pas besoin de sauveur. Du coup, la question, mais où suis-je perdu? Quel est mon égarement? Alors, le peuple, il est là, il y a les Romains, alors ils ne savent pas très bien, c'est peut-être ça le salut, c'est peut-être qu'on est opprimé. Est-ce que c'est ça que Jésus vient faire, de sauver des Romains? Il est mort sur la croix, est-ce que les Romains sont partis? C'est quoi? Alors, ce salut, ben, c'est ce que dit saint Paul. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, c'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste, religieux et pour attendre le bonheur que nous espérons. En fait, ce salut, c'est double. La première chose, c'est que, en fait, la vie éternelle, en gros, si vous préférez, pour faire simple, l'homme n'en voulait pas tellement. Dieu vivait avec l'homme dans une communion d'amour, et puis cette communion, l'homme a douté. Mais finalement, Dieu, est-ce que tu me caches pas quelque chose? Et puis moi, j'aimerais être mon propre, l'auteur de ma propre vie. Je veux pas dépendre de toi. Je veux pas dépendre de toi. Je veux pas de ta vie, en fait. Je veux ma propre vie. Je vais imaginer les choses. Et c'est le drame du péché. Et du coup, cette vie éternelle ne nous était pas destinée. Puis la deuxième drame, c'est que en fait, nous ne savons pas aimer, mais ça on en fait un peu l'expérience, on a du mal à aimer. Et pour ces deux raisons, on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur parce qu'on ne peut pas se donner la vie éternelle à soi-même. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai le droit à la vie éternelle, ce n'est pas possible. Et on a besoin d'un sauveur parce qu'on fait tous l'expérience qu'on a du mal à aimer. Moi je suis un curé, mais je ne suis pas un bon curé. Vous êtes des parents, il y a des enfants, mais c'est... On a tous, vous voyez, des difficultés à aimer. Donc on a besoin d'être sauvés. Alors c'est ça, vous voyez, la bonne nouvelle, elle est très liée à ma connaissance, à la connaissance que j'ai de ma pauvreté. J'ai envie de dire que nous fêterons Noël de manière plus forte, plus puissante, si nous avons une mesure, une connaissance de notre pauvreté. Ce n'est pas une connaissance qui est accablante. Parce qu'il y a la guérison derrière, parce qu'il y a le salut. Ça serait terrible. Dieu qui dirait, vous êtes pécheurs, et puis maintenant, alors, faites quelque chose, rachetez-vous. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vous racheter, vous n'êtes pas capable. Donc je vais faire ce travail d'amour. Moi, je vais vivre, voilà, tout ce que vous auriez dû vivre. Je vais vivre cette obéissance au Père, jusqu'au bout. Et puis si on me rejette et qu'on me met dans une crèche, eh bien, je ne serai pas là à me venger. Et puis, si on ne me paye pas mes factures quand je serai charpentier, ben, je ne serai pas là à faire des coups. Et si on me crucifie, j'ouvrirai mon cœur. Vous voyez, c'est un Dieu qui va jusqu'au bout de l'amour. Mais qui dit, je peux te donner mon amour, je peux te donner mon salut, si toi, tu reconnais que tu as besoin d'être sauvé. Alors c'est ça, voyez, peut-être que cette porte du salut, l'enfant nous y aide. L'enfant, c'est quelqu'un de très vulnérable, très petit. C'est quelqu'un qui nous désarme. C'est peut-être ça qu'on peut demander ce soir, voyez. Peut-être dans la contemplation de Jésus, de demander d'être désarmé. En fait, pourquoi on ne veut pas être sauvé? Pourquoi on n'a pas besoin de salut, en fait? Moi, je me rends compte, j'ai horreur de demander mon chemin, par exemple, en voiture, parce que je suis orgueilleux. Non, mais mon chemin ou d'autres choses. Vous avez remarqué qu'on n'aime pas être aidé. Enfin, ça dépend, c'est des tempéraments. Mais moi, j'aime bien tout faire moi-même. Mais j'aime pas qu'on m'aide. Parce que ça remet en cause mes capacités. Je ne sais pas tout faire. Je ne suis pas capable de tout faire. En fait, on n'aime pas très très bien être sauvé. Et l'enfant, c'est celui qui est totalement dépendant. Il ne peut rien faire sans ses parents. Donc c'est vraiment le signe, l'enfant, de celui qui a besoin d'être sauvé. Et c'est pour ça que l'enfant est un éducateur. Vous voyez, on enlève l'enfant de la société, puis on a une société qui part en l'air, qui... On enlève le vieillard d'une société, puis on a une société qui disjoncte. Et l'enfant, le plus petit, l'enfant handicapé en particulier, il nous oblige à aimer. Il nous oblige à sortir de nous. C'est pour ça que c'est un éducateur. Ben voilà ce qu'on peut demander. On va peut-être demander ça. Seigneur, eh bien, montre-moi qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé chez moi. Si Jésus est cette bonne nouvelle, c'est qu'il faut qu'il rencontre une mauvaise nouvelle qui est mon besoin d'être sauvé. Genre une bonne nouvelle, ça va avec une mauvaise. Alors Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est difficile en moi. Je vais être en vérité avec toi ce soir. Moi, Paul, Seigneur, montre-moi en tant que prêtre ce qui ne va pas chez moi, pour que je puisse accueillir ta vie, le salut, voilà, dans ma vie personnelle, dans ma paroisse. Puis chacun d'entre nous, voyez, parents, enfants, Seigneur, montre-moi ce qui a besoin d'être sauvé. Et je vous propose peut-être qu'on se mette à genoux, maintenant, devant la crèche, et qu'on demande à chacun que Dieu vienne nous sauver. Et que cette œuvre de salut, il est jusqu'au bout. Voilà. Si on peut se mettre à genoux, si on peut pas, on reste debout.